merci à tous d'être là. Je suis vraiment ravie et reconnaissante à Marina de l'IRIM pour cette invitation, à Carlos Peuch également, qui m'a invitée, et puis à Isabelle Bleton. J'ai passé vraiment un très bon séjour ici. Je suis vraiment ravie de l'accueil chaleureux que j'ai eu. Les cours d'Agrec se sont très très bien passés. J'en ai vraiment, vraiment profité, ce qui est très rare. Enfin, on ne dit pas ça normalement des cours d'Agrec, mais effectivement, je me suis bien amusée. Et pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir présenter ma recherche. C'est un livre que je suis en train de finir. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, tout ça me servira vraiment énormément. Et c'est bizarre parce que je suis française, mais je ne fais jamais de conférences en français. Donc, voilà. Voilà, donc le titre de ma communication aujourd'hui est « L'art de la colonisation, colonie pénale aux Philippines ». Et je commence par une question. Combien de temps pouvez-vous tenter désespérément de maintenir un empire qui s'effondre ? Je vais vous raconter aujourd'hui comment le gouvernement espagnol a conçu une conquête tardive et désespérée, complètement désespérée des Philippines, dans la seconde moitié du 19e siècle. Aucun citoyen de la péninsule ibérique ne voulait se rendre dans l'archipel. Trop loin, disaient certains. Pas assez attrayant, disaient les autres. Nous préférons l'Amérique récemment émancipée, affirmaient-ils, et ils avaient raison. Qu'il en soit ainsi, ont dit les législateurs, nous enverrons ceux qui n'ont aucun pouvoir de décision. Les soi-disant criminels, les prostituées, les vagabonds, les pauvres. Tout le monde y gagne. Nettoyons nos rues. Qu'ils quittent notre péninsule et qu'ils peuplent l'archipel. Qu'ils dépossèdent également les populations indigènes de leurs terres, tant qu'ils y sont. Et qu'ils construisent la structure coloniale par le biais de colonies pénitentiaires agricoles. Mais d'abord, avant d'envoyer nos chers citoyens espagnols que nous ne désirons pas sur notre territoire, essayons cette méthode avec les Philippins. Nous les utiliserons comme cobayes. Nous les déplacerons du nord au sud. Et si cela fonctionne, nous mettrons en œuvre cette méthode au niveau transnational. C'est ça que je vais explorer avec vous aujourd'hui. Comment l'Empire espagnol a utilisé les colonies pénitentiaires comme une technique de gouvernement. Aux Philippines, qui était une colonie espagnole de 1565 à 1898. Pour ce faire, le gouvernement espagnol a utilisé les modèles épistémologiques du positivisme et a créé une nouvelle science dédiée à la connaissance et à la diffusion de l'art de la colonisation. Il semble que ce soit un concept que j'ai inventé, n'est-ce pas ? L'art de la colonisation, ça a l'air génial. Mais non, malheureusement, ce n'est pas de moi. Il s'agit d'un cours de Joaquín Maldonado y Macanaz, qui était professeur à l'Université de Madrid. Et donc, il a inventé ce concept au 19e siècle. Enfin, c'était un cours qu'il a titulé comme ça, pour les étudiants qui allaient rejoindre l'administration civile aux Philippines. Il en a d'ailleurs fait un ouvrage à partir des notes de son cours. Dans ce contexte, il explique que la notion d'art peut être comprise comme une technique qui englobe plusieurs disciplines. L'histoire, la géographie, l'ethnographie, l'anthropologie, l'économie et la politique. Les îles étaient des sites conçus pour mettre en œuvre ce nouvel art de la colonisation. Les îles permettraient ou promettaient un nouvel ordre social et soutenaient la volonté impériale espagnole. En outre, les îles étaient considérées comme terra nullius, terre de personne, un concept juridique issu du droit romain, qui était utilisé pour désigner des terres considérées légalement comme inoccupées ou inhabitées, peu importe s'il y avait des gens qui vivaient dessus. Parce que cela représentait la conception eurocentrique de la civilisation et la façon dont les peuples non-européens étaient considérés comme n'ayant pas de souveraineté. Donc Anthony Angie, qui a travaillé sur ce concept au 19e siècle, souligne que ce concept a une influence sur le droit international pour les nations européennes au XIXe siècle et qu'il a été exploité pour justifier la conquête impériale et la gouvernance des colonisés. Christian de Vito a insisté sur l'importance d'étudier la spatialité du châtiment, donc comment les prisons sont réparties ou les prisonniers sont répartis au niveau du globe. Et lui, il a travaillé sur l'Empire espagnol. Il explique que l'histoire du transport des condamnés a minimisé le nombre de corps transportés à travers cet empire spécifique. Ses recherches montrent qu'environ 110 000 prisonniers espagnols ont effectivement été déplacés entre 1550 et 1911. un nombre supérieur à celui des plantations portugaises et françaises au cours de la même période. Les seuls qui déportent plus de monde sont les Anglais, enfin c'est l'Empire britannique. Donc ce chiffre de 110 000 prisonniers inclut les Philippines, un territoire souvent oublié dans l'histoire de l'Empire espagnol, on parle très peu des Philippines. L'archipel aurait reçu 300 prisonniers entre 1870 et 1890, un chiffre auquel il faut ajouter le nombre de prisonniers indigènes. En ce qui concerne le déplacement des prisonniers, de nombreux itinéraires, on peut le voir sur la carte, de nombreux itinéraires reliaient les Philippines au reste du monde. Ces itinéraires étaient complexes et impliquaient des transports multiples, y compris des routes terrestres et maritimes. Donc selon la carte de De Vito, le flux de prisonniers qui reliait Acapulco à Cavite, Cavite c'est à côté de Manille, montre le profond impact culturel, sa longue durée et son profond impact culturel des deux côtés de l'océan. La plupart du temps, ces prisonniers allaient de Cadiz en Espagne à Veracruz, en bateau, Veracruz, le Mexique, et de Veracruz à Acapulco par voie terrestre, ensuite de Acapulco aux Philippines. L'autre route maritime directe qui reliait Cadiz à Cavite, en passant par le Cap Horn et le Cap de Bonne-Espérance avec la Compagnie Royale des Philippines, était rarement utilisée pour le transport des prisonniers. Et rien n'indique que les prisonniers faisaient le chemin inverse. Donc en fait, c'était seulement dans un sens. Une donnée importante est que ceux-ci n'étaient pas condamnés par des magistrats à des prisons spécifiques, à des presidios. Ils étaient envoyés en Afrique, en Amérique, aux Philippines. D'accord ? Donc les condamnations n'étaient vraiment pas précises. Une fois à Manille, on décidait où les envoyer. Les îles du Sud, que je travaille, étaient considérées comme les plus dangereuses et étaient le réceptacle de tous les meurtriers, les bigames et les sodomites. Donc il s'agit d'une archive queer dans le sens où Zeb Tortorici l'a expliqué. Et la manière en fait dont les corps sont traités et archivés est de plus grands intérêts, ce qui m'oblige à expliquer mon approche méthodologique avec vous. Je souhaite vous expliquer, avant de rentrer dans l'analyse des documents, la méthodologie que j'utilise pour donner une idée, pour vous donner une idée de la manière dont je travaille avec les sources d'archives des deux côtés du monde. Et dont j'étudie le transport, la manière dont j'étudie le transport et le travail des prisonniers, surtout, pour mettre en lumière la construction et les réseaux de l'Empire. Et aussi pour faire part des difficultés que je rencontre, parce que souvent, parfois, j'ai plus de questions que de réponses. Je pense que c'est tout à fait normal. Tout d'abord, l'idée d'une écriture transfrontalière. Étant donné que les documents que j'étudie ont été rédigés dans plusieurs îles des Philippines, mais aussi en Espagne, la notion développée par John Blanco dans un ouvrage qu'il a publié en 2009, Frontier Constitution, c'est sur les Philippines, est au cœur de mon approche. En effet, il travaille la notion de frontière comme enjeu spécifique pour un pays qui aujourd'hui compte 7441 îles et qui compte entre 120 et 187 langues. Donc ici, il y a la frontière que constitue chaque île et aussi la communication entre elles et la péninsule ibérique. Donc tout ça, ça a été un défi pour la construction de l'Empire. Je pourrais expliquer un peu si ça vous intéresse l'enjeu des langues dans les questions-réponses. Deuxièmement, la lecture des textes administratifs et juridiques. Les archives transnationales avec lesquelles je travaille comprennent des documents administratifs, des plans de prison, des dossiers juridiques, des dossiers médicaux, de la correspondance, des projets financiers, des budgets, des livres de compte, avec des descriptions détaillées du matériel agricole entre autres. Alors, vous pouvez dire, ah oui, ça ne doit pas vraiment être marrant. Moi, j'adore. Ces descriptions, les chiffres, le prix, les entrées d'argent, enfin, c'est magnifique. Je ne me contente pas de recueillir des données à partir de ces documents, mais je travaille aussi avec la langue, dans une approche assez littéraire, en fait, vous le verrez, qui m'incite à travailler sur la possibilité de comprendre leur mode d'intervention dans le social. Les textes sont ainsi conçus comme des outils de mise en relation d'agents et d'espaces sociaux. Je m'intéresse aux mécanismes de production, aux modes de circulation et aux espaces dans lesquels ces textes ont été écrits et conçus. Le défi consiste à parler des corps que nous rencontrons dans ces archives, dans leur propre individualité. Comment sont-ils écrits? Comment sont-ils racontés? Comment sont-ils archivés dans ces dossiers? Comment portent-ils la marque du désir colonial à travers leur soi-disant incapacité à le représenter? Ce sont des corps qui ne représentent pas l'Empire, mais on veut qu'ils soient partie de l'Empire. Donc c'est pourquoi il est fondamental d'examiner le vocabulaire et son pouvoir d'oppression dans ces cas-là. En suivant Anne Stoller, qui est vraiment pour moi un modèle de chercheuse sur les archives, nous pouvons parler d'archives en tant que sujet, D'accord. Non, c'est pas d'archives en tant qu'objet, elle parle d'archives en tant que sujet. Et des archives coloniales en tant que site de l'attente, qui nous parle, et ça c'est une citation que j'ai traduit, des rêves d'avenir réconfortants et des pressentiments d'échecs futurs. L'avenir qu'on souhaite, mais en fait on sait que ça va être un échec. Ce qui est important dans l'approche des archives de Stoller, et la mienne devrais-je dire, c'est la façon dont les données qu'elles contiennent nous renseignent sur les sensibilités plus que sur les taxonomies. Troisièmement, et par conséquent, donc c'est mon troisième point méthodologique, comment devrions-nous aborder l'information que nous trouvons dans les archives afin qu'elle ne reproduise pas une sorte d'extractivisme dont les sociétés coloniales sont connues ? Lire les archives coloniales ne devrait pas signifier que nous reproduisons une pratique extractiviste. Macarena Gómez-Barris a travaillé là-dessus, elle insiste sur la façon dont nous pouvons produire des cartes de la connaissance qui ne sont pas reliées, je cite, par des histoires linéaires ou des expéditions eurocentriques. Et ne pas entrer dans les archives coloniales dans l'espoir de reproduire des méthodologies normatives, qui, selon elle, reproduisent un épistème et une représentation de la marginalité. Donc, en ce sens, tomber dans l'excès épistémologique est toujours à l'horizon pour moi. Et en être consciente pourrait être le premier pas vers la compréhension des véritables défis que représente le travail transnational et transhistorique. Ce qui est important pour moi, c'est de souligner comme les spécificités des archives avec lesquelles je travaille. Elles ont leur propre identité, leur propre trajectoire, leur propre itinéraire. Donc je suis venue à cette archive que je vais vous présenter par l'idée, enfin, en travaillant les archives ibériques, c'est-à-dire c'était l'éventail que je travaillais, en commençant par l'Espagne et par la réforme pénale. C'était mon livre. Mon livre, c'était sur la réforme pénale et les colonies pénitentiaires constituaient un chapitre du livre. Lorsque j'effectuais un travail d'archivage plus profondi, notamment à Manille, mais pas seulement, j'ai compris que les expériences uniques que l'on peut trouver dans ces archives spécifiques, et c'est devenu un livre. La question des colonies pénitentiaires dans la partie sud de l'archipel était passée complètement inaperçue, parce qu'elle était considérée sous l'identité des archives ibériques. L'enjeu est de comprendre l'identité unique de ces archives. Je souhaite dialoguer avec l'historien et critique philippin Resil Buagas Mojares, en particulier, sur ce point, parce qu'il a souligné la nécessité urgente d'élargir le champ de l'écriture historique pour la partie sud des Philippines et d'inclure les dimensions subjectives des expériences, de l'expérience des gens et de savoir, je cite, « comment les gens du passé imaginaient leur monde, ce qu'ils pensaient ou ressentaient et comment ils le pensaient ou le ressentaient ». Le manque de documents sur, écrits sur les « erecciones de pueblos », donc ces villages dont je vais parler, je l'expliquerai après, qui sont uniquement disponibles pour la fin du XIXe siècle, et c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est au cœur de ma recherche, le parti pris en faveur de l'élite moderne et de la capitale, donc l'intérêt que les chercheurs ont eu pour les ilustrados, c'est un mouvement du XIXe siècle, et des personnalités telles que José Rizal, c'est ceux qui ont organisé l'indépendance des Philippines à la fin du XIXe siècle, donc tout ça sont autant de facteurs qui ont contribué à l'émergence d'une histoire culturelle centrée sur Manille et sur ses habitants. Et tout cela appelle à faire une place à la communauté de conteurs, à des sources alternatives, dit Buagas Mojares, à comprendre le passé comme le présent, à partir d'une analyse de ce qui se passait dans d'autres îles et dans les campagnes. Il y a des initiatives telles que celle développée par Michel Vincent Cáceres de l'université de Zamboanga. Zamboanga, c'est sur l'île de Mindanao, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc tout ça, c'est fondamental dans ce processus. Cáceres a travaillé avec des archives et des photos pour montrer une exposition sur la colonia pénale de San Ramón, afin que les habitants de Zamboanga comprennent l'histoire qui se cache derrière ce qui est aujourd'hui un point de repère historique pour leur ville. La prison de San Ramón est considérée comme le plus ancien pénitencier national existant dans le pays, à l'instar de la prison panoptique de Bilibid à Manille, qui était le projet carcéral colonial espagnol du XIXe siècle. Et à ce sujet, j'ai une histoire très rigolote que je peux vous raconter lors des questions-réponses, lorsque j'ai visité cet endroit. Je me concentrerai aujourd'hui sur la colonie pénitentiaire de San Ramón. Donc la question des colonies pénitentiaires était au cœur du débat sur la réforme des prisons dans toute l'Europe au XIXe siècle. L'Angleterre et la France ont établi des colonies pénitentiaires. Entre 1788 et 1868 en Australie, au Botany Bay, a été la première colonie pénitentiaire pour l'Angleterre. Et à partir des années 1850, en Guyane française. Et elles ont constitué le modèle européen à suivre. Donc l'Espagne veut vraiment imiter ce qui a été fait à Botany Bay. Les débats sur l'envoi de criminels à l'étranger sont nés de la difficulté de les traiter économiquement et politiquement et de gérer leur présence physique dans la vie sociale. Ces débats ont façonné des idées sur ce que signifiait l'emprisonnement des délinquants et l'utilisation de leur travail sur des îles éloignées. En Espagne, les réformateurs sociaux et le gouvernement se sont demandé si ce modèle pouvait être appliqué à des archipels tels que Fernando Po, donc aujourd'hui Bioko, qui est en Guinée équatoriale, en Afrique, les Mariannes et les Philippines. Les enjeux sociopolitiques de la question des futures colonies pénitentiaires étaient largement débattus dans la presse et aussi dans les cercles intellectuels en Espagne à cette époque. Cette idée est née au moment où l'Empire espagnol était en chute libre, ses colonies accédant à l'indépendance, colonies américaines. Les prisons d'outre-mer étaient courantes en Europe et correspondaient à un besoin d'exploration, d'expansion et d'organisation des structures administratives dans les colonies. Le maintien de l'Empire espagnol à cette époque a été envisagé donc à travers l'établissement de ces colonies pénitentiaires. Ces terres permettraient de faire croître une population de colons sur des îles qui n'intéressaient guère les Espagnols eux-mêmes. Donc c'est comme ça que j'ai voulu ouvrir ma conférence aujourd'hui. Et là, bon, spoiler alert, je vais vous dire ce qui s'est passé avant la fin. L'Espagne n'a jamais vraiment réussi à établir des colonies pénitentiaires fonctionnelles dans l'archipel. Donc je n'étudie pas du tout le résultat, j'étudie le processus dans mon livre. Pourquoi ? Tout d'abord, la distance géographique, c'était trop loin, non ? Rendait impossible l'élaboration d'un plan juridique. Donc Blanco l'a bien expliqué. Il a expliqué qu'il était difficile pour l'Espagne de gouverner l'archipel parce que la structure du pouvoir était non seulement complexe, mais aussi extrêmement hiérarchisée. Et ça rendait difficile l'établissement d'une chaîne de commande claire et efficace depuis l'Espagne jusque dans toutes ces petites îles. Des lois spéciales ont été créées, donc c'est des lois qui ne seraient appliquées que dans la colonie, créant ainsi un état d'exception, vraiment. Et cela permettait une gouvernance qui ne dépendrait pas de la métropole. Donc il y a eu plein de lois spéciales qui ont été créées en Espagne. Les archives révèlent ce problème de communication et de gouvernance entre l'archipel et la péninsule. Les lettres, les dossiers agricoles, les rapports de médecins montrent la grande difficulté à obtenir un territoire fonctionnel. Et l'absence de réponse des fonctionnaires espagnols est perceptible dans ces archives. Les lois votées en Espagne ne pouvaient être appliquées aux Philippines. Je développerai un aspect important à cet égard aujourd'hui. Je développerai l'utilisation et l'abus de prisonniers philippins pour tester une méthode d'incarcération. Donc dans les documents espagnols, ils utilisent le terme ensayo, pequeño ensayo. Je vais expliquer cela. L'objectif était d'utiliser cette méthode, cet ensayo, plus tard avec des prisonniers espagnols. Cela impliquait des questions relatives au travail en prison, au profit économique du travail des prisonniers et au traitement des prisonniers par le biais d'une rhétorique de la capacité physique. Comme l'a montré Adria Imada, les personnes valides sont au centre de la politique du colonialisme, ce qui est de grande importance lorsqu'il s'agit d'économie pénitentiaire. Donc l'aspect concernant l'utilisation et l'abus par le pouvoir colonial des prisonniers philippins pour tester une méthode d'incarcération est particulièrement important pour montrer comment les Philippins ont été utilisés comme cobayes par le pouvoir colonial. De nombreux documents que je consulte montrent que la création de colonies pénitentiaires n'avait aucune limite. C'est le cas d'un dossier 12454 aux Archives nationales des Philippines qui comprend tous les documents relatifs à la création de la colonia pénale de San Ramon. Et d'un manuscrit rédigé en 1871 qui se trouve aux archives historiques de Madrid, donc du ministère de l'Outre-mer, intitulé Estadísticas y Memorias de la Colonización, Colonias Penitenciarias en Mindanao. Les deux séries de documents révèlent que le projet de colonie pénitentiaire a commencé par l'incarcération de sujets philippins afin de tester la faisabilité des colonies pénitentiaires. Ces prisonniers ont été envoyés dans le sud, où se trouve Mindanao, et ont donc été déplacés du nord, Manille, au sud. Selon ces estadísticas y memorias, l'objectif était de transformer la colonie en village dans un délai de 10 ans. Les manuscrits dévoilent un programme fort pour la gestion de la colonie pénitentiaire, les bénéfices à en attendre et la manière de l'utiliser. Estadísticas y memorias présente un programme d'amélioration morale et de conversion religieuse aussi des individus pour que la colonie prospère grâce à leur travail. Il propose un plan agricole pour réformer les prisonniers par le travail et est en accord avec l'idée du gouvernement selon laquelle les Philippines devaient devenir une colonie agricole autonome, ce qui en fait un projet spécial et différent de l'Amérique. Le texte parle du tabac, du café, du cacao comme les principales richesses des îles et suggère d'éventuels experimentos practicos, donc expériences pratiques. c'est-à-dire de tester le modèle de travail pour que le gouvernement espagnol, veuille ensuite utiliser dans toutes les îles pour voir s'il pouvait être reproduit dans d'autres colonies. Donc l'idée était aussi de coloniser plus tard d'autres territoires. Enfin, un projet fou parce que l'Espagne n'avait presque plus de colonies. Donc l'idée, c'était de refaire grandir l'Empire et d'avoir un empire où le soleil ne se couche jamais à nouveau. Donc pour étudier cet aspect, j'ai inventé dans mon livre le concept de laboratoire biopolitique colonial, que je vais expliquer maintenant. Donc qu'est-ce que c'est, ce laboratoire? J'utilise ici le concept de biopolitique, m'appuyant sur Foucault évidemment, c'est-à-dire la manière dont le pouvoir politique contrôle la vie biologique des individus. En ce sens, l'État espagnol s'est attribué la possibilité de gérer les corps et les vies des prisonniers. Dans la colonie pénitentiaire, comme vous le verrez, la biopolitique était au centre de l'application des nouvelles technologies qui renforçaient la politique raciale et l'appareil d'État. C'est ce que j'ai appelé un laboratoire biopolitique. En tant que laboratoire colonial, les îles ont été un canal par lequel une politique d'incarcération et de réforme pénale au service de l'Empire a été conçue. Quelle était la fonction souhaitée de ce laboratoire? Et quels étaient les courants géopolitiques qui ont construit à son développement et à son déploiement, surtout? Le laboratoire biopolitique colonial a servi à affirmer la capacité d'un pouvoir souverain, ou voulait servir à affirmer la capacité d'un pouvoir souverain à organiser les corps et à modeler un citoyen qui deviendrait une figure néocoloniale, redonnant vie à un empire en ruine. Dans le laboratoire biopolitique, nous voyons l'articulation de la race et du travail, donc ce qu'Aníbal Quijano appelait la colonialité. Donc une articulation de cette colonialité pour les îles Philippines. Mais je dirais qu'il s'agit d'une articulation spécifique, parce que ici, cette articulation n'est pas seulement la raison d'être de la colonisation, comme l'a expliqué Aníbal Quijano. Dans ce cas-là, elle justifie également la mise en œuvre d'une réforme spécifique des prisonniers espagnols à travers leur travail et leur domination sur les populations indigènes. C'est des Espagnols qui n'ont pas vraiment le statut de citoyen, qu'on ne veut pas en péninsule, dans la péninsule ibérique, mais qui là-bas sont les colons, sont des gens qui ont un statut social. Donc là, c'est vraiment une articulation de la colonialité très spécifique. Donc, le laboratoire biopolitique de la colonie pénitentiaire sert deux objectifs. Ces deux objectifs et l'élément constitutif de la construction d'un village colonial qui, après, construira la société. Je l'expliquerai dans une minute. Donc, de plus, j'ai choisi la notion de laboratoire pour conceptualiser ce projet de colonie pénitentiaire, car l'idée, comme nous le verrons, était d'organiser un essai, El ensayo, d'abord avec des prisonniers philippins. En ce sens, il y avait une approche scientifique. Vous verrez le vocabulaire qui est employé, c'est vraiment une approche scientifique aux colonies pénitentiaires. On pensait qu'elle pourrait devenir une méthode pour aider à organiser, prédire et contrôler l'utilisation des prisonniers dans un cadre colonial. Ainsi, le concept de biopolitique, évidemment, est encore plus central pour comprendre comment le discours politique a été envisagé en termes biologiques pour justifier les relations entre les prisonniers espagnols et la population indigène dans le processus de colonisation. Une fois que, évidemment, cet essai aurait pris. Une politique raciale est, selon Foucault, une extrapolation biologique de l'ennemi politique et un renforcement biologique de soi-même. Donc c'est exactement ce qui était censé se produire dans la colonie pénitentiaire, où les Espagnols imposaient et renforçaient leur présence en termes biologiques, politiques et religieux. Chaque étape nécessaire du processus de colonisation a été conçue pour suivre des principes utilitaires qui se traduiraient en une productivité et une utilisation élevée des ressources de la terre. El gobierno dispone de esos brazos en sus numerosos presidios y no deja, por cierto, de utilizarlos de una u otra forma. Donc ça veut dire le gouvernement dispose de bras dans ses nombreuses prisons et ne manque certainement pas de les utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc tout au long des textes, on perçoit un langage de production qui justifie l'utilisation du travail des prisonniers. Pratique, productif, utilisé, usage, etc. Parmi les documents et les lettres administratives, on trouve une enquête d'un directeur de prison sur la manière de mieux peupler la partie sud des Philippines par le biais de prisonniers. Il recommande au gouvernement, avant d'envoyer des prisonniers espagnols, d'envoyer des indios filipinos, des indigènes philippins. Et c'est lui qui parle le premier de cet essai. Les Philippins, donc c'est dans cette enquête qu'il fait. Les Philippins sont présentés comme des cobayes qui serviraient à confirmer la théorie selon laquelle les colonies pénitentiaires sont économiquement et moralement viables. Elles sont appelées Colonias Agricolas de Reforma, colonies agricoles de réforme. À la page 125 de cette enquête, il y a une explication. Bon, c'est des centaines de pages, en fait, de manuscrits. Il dit « Un petit essai d'une prison agricole à 20 hommes pour donner au gouvernement des données plus concrètes pour le projet et l'aider à décider de donner son accord à la colonisation de Mindanao. La population indigène serait observée et les résultats utilisés pour proposer une méthode d'agriculture autosuffisante. Cette méthode, à son tour, serait mise en œuvre pour coloniser le territoire avec des prisonniers espagnols. L'objectif est de prouver que les prisonniers peuvent être réformés par le travail agricole. Los penados que den pruebas evidentes de enmienda, de laboriosidad, de obediencia bajo una atenta imparcial observación. Non, les prisonniers qui démontrent suffisamment la correction, la diligence, l'obéissance sous une observation attentive et impartiale. Cela permettrait à long terme le développement d'un colonialisme de peuplement, donc en anglais c'est le concept de settler colonialism. Ce processus s'effectue par le biais d'une intervention et d'un examen biopolitique qui non seulement observe, on a observation, observe le sujet, mais juge également ses actions physiques et morales, correction, diligence, obéissance. Donc là, on voit vraiment le vocabulaire qui est développé, ce vocabulaire de l'utilitarisme et de la correction des prisonniers. L'argument principal était qu'après cet essai, l'Espagne serait en mesure d'envoyer ses propres prisonniers et de mettre en œuvre une politique de punition et de métissage ethnique afin d'établir des générations qui deviendraient suffisamment espagnoles sur le plan génétique. Et j'y viendrai dans un moment. Donc ce projet comprend également des données, des tableaux et des schémas économiques. Ce document, ce projet, peut être considéré comme un plan directeur pour l'établissement des colonies pénitentiaires agricoles aux Philippines et pour la réussite d'une colonisation espagnole complète de l'archipel. Donc là, il y a la rentabilité du travail effectué pour 100 prisonniers. Et ensuite, un autre document qui est entièrement détaillé, un plan détaillé des coûts économiques aux avantages, la répartition des terres aux problèmes anticipés avec les prisonniers. Donc il y a beaucoup de calculs, et énormément de calculs et de situations possibles. Donc ce manuscrit, enfin ces tableaux se trouvent dans le manuscrit du ministère d'Outre-mer, dont je vous ai parlé avant. Et je pense qu'il peut être interprété comme une théorie de la réforme pénale conçue pour les colonies, et plus particulièrement pour les îles, ainsi que comme un renforcement du statut juridique des colonies en tant qu'espace d'exception qui aiderait l'Espagne à retrouver une partie de sa présence impériale dans le monde. Dès le début, le manuscrit propose une critique de l'état dans lequel se trouvent les prisonniers déportés et la population indigène. Donc ça, c'est le point de départ d'une explication de l'exploitation de la terre par le gouvernement espagnol sur plusieurs fronts. L'île est présentée comme une terre prometteuse, et là, dont on a des échos à l'idée de la terre biblique promise, tout au long du manuscrit. Tout d'abord, c'est l'espace idéal, car les condamnés ne pourraient jamais s'échapper. Le manuscrit dit « Mindanao, allá es el exterior rodeado de mar, y al interior habitado por moros no sometidos. » Non, il y a la mer tout autour, et à l'intérieur, c'est peuplé. Donc c'est une parfaite île-prison, et ça c'est un concept d'Éric Fougère, qui a travaillé sur la Guyane française et les colonies pénitentiaires. Donc en effet, l'installation d'une colonie pénitentiaire sur une île implique des spécificités géopolitiques. Non seulement la mer est un facteur d'établissement de la souveraineté, mais en l'occurrence, l'aspect géographique de Mindanao, son extérieur, entouré par la mer, accentue encore la manière dont la puissance coloniale peut se répartir efficacement dans l'espace. Ce qu'il dit, c'est que de toute façon, on n'a même pas besoin de construire des murs pour cette prison, parce que les prisonniers ne peuvent pas s'échapper. Donc, deuxièmement, l'établissement des colonies agricoles ne serait pas seulement bénéfique pour le travail de la terre, disent-ils, mais nécessiterait également des infrastructures. Donc, les hommes pourraient travailler à la construction de maisons, de ponts, de routes, lorsque la saison des récoltes serait passée. Troisièmement, le manuscrit parle de paiement. Donc les prisonniers seraient payés un réal s'ils travaillaient pour l'État dans ces constructions. Un réal et demi s'ils faisaient du travail public. Et deux réaux ou plus s'ils travaillaient pour un particulier, donc en dehors de la colonie agricole. Payer les condamnés est présenté comme une nécessité, disent-ils, parce que on ne veut pas que sous pena no se asemeje a la esclavitud. Non, pour que ça ne soit pas une forme d'esclavage. Anne Stoller, qui étudie les archives existantes sur Maitrey, donc Maitrey, c'est une colonie agricole pour les enfants orphelins, criminels ou abandonnés, elle affirme que les colonies agricoles ont été considérées à l'époque comme un projet réformiste, donc c'est un projet du 19e siècle, et classées plus tard comme des institutions carcérales liées au réformisme social européen, alors qu'en fait, pour elle, elle devrait être interprétée comme un effet de la gouvernance impériale. Le manuscrit de 1871 confirme l'analyse de Stoller et constitue à tous égards une théorie de la réforme pénale conçue pour les îles en tant que lieu de renouveau impérial. Cependant, lorsque l'on travaille au niveau transnational, on se rend compte de la tension entre les connexions et les déconnexions du pouvoir colonial et de la colonie. Alors qu'en Espagne, des lois concrètes étaient rédigées et même votées, débattues et votées concernant l'établissement de colonies pénitentiaires, Philippines, la réalité de l'archipel était totalement étrangère à toute possibilité de concrétisation matérielle. De nombreux documents rédigés en Espagne parlent de la fertilité du sol, et bien là on revoit aussi un vocabulaire du passé des employés par Christophe Colomb, enfin tous les colonisateurs, vraiment c'est le même vocabulaire qu'ils emploient, c'est très riche. Et c'est effectivement le cas, la fertilité, enfin le sol était très fertile, mais les documents rédigés dans le sud des Philippines montrent non seulement cette fertilité, mais que cette fertilité est un problème. Et les documents montrent le manque de semences, d'instruments et aussi de main-d'œuvre, mais aussi le fait que la nature était exubérante et avait conquis le sol plus rapidement que les hommes. Donc à chaque fois qu'ils veulent cultiver, la nature revient. Et c'est impossible. Par exemple, une lettre envoyée par le directeur de la prison de la colonie San Ramon le 20 juin 1994, donc c'est vraiment à la fin de l'Empire, parle du manque d'argent pour entretenir les prisonniers philippins, car l'argent réservé à cet effet n'est pas encore arrivé. Une autre lettre, envoyée un peu auparavant, parle des lois concrètes adoptées en Espagne pour justifier le besoin d'argent. Donc elle dit, oui, les lois ont été votées, mais nous n'avons pas reçu l'argent. Donc envoyez-nous de l'argent, car c'est la loi. C'est une pratique très courante dans les lettres envoyées par les directeurs de prison des Philippines vers l'Espagne. Et donc la loi ici est utilisée à des fins de survie, parce qu'ils disent, on n'a vraiment, vraiment rien à leur donner à manger, par exemple. Nous ne pouvons nous nourrir. En outre, les lettres écrites depuis Mindanao parlent de sécheresse et de pluie violente en fonction de la saison. Donc cette tension est visible, ces connexions et ces déconnexions de l'Empire espagnol, et ça nous offre une entrée unique pour comprendre les dynamiques juridiques, économiques et environnementales également des archives coloniales transpacifiques. Dans le temps qui me reste, j'ai l'intention d'aborder d'abord le concept de village colonial pour prouver qu'il a été conçu comme ce que j'ai appelé le laboratoire biopolitique. Je montre que l'idée du village colonial est intimement liée à une politique raciale dans laquelle les criminels espagnols, ceux que l'Espagnol a rejetés, ont pour mission d'améliorer El Indio Filipino. L'idée du village colonial est tirée de plusieurs sources avec lesquelles je travaille, à la fois des archives manuscrites philippines, de la colonie San Ramon et du manuscrit du ministère d'Outre-mer. Ces manuscrits montrent comment l'État espagnol entendait transformer les colonies pénitentiaires en villages coloniaux, en imposant donc la religion, la langue, les coutumes espagnoles aux condamnés et à la population indigène. Le village colonial, en tant que continuation de la colonie pénitentiaire, est un point de départ pour l'établissement du laboratoire. Il est clair dès le début que la continuité entre la colonie pénitentiaire agricole, donc ce que font les prisonniers, et le village colonial se développerait parce que les condamnés apprendraient pendant leur emprisonnement, enfin ce qu'ils apprendraient servirait à former une population et une culture dans les nouvelles villes. Un manuscrit dit « El gobernador del distrito vigilará constantemente los pueblos nuevos que vayan formando para que continúen observando el régimen que aprendieron en las penitencias. » Le gouverneur, il surveillera constamment les nouveaux peuples, et ça c'est très important, les nouveaux peuples qui se formeront pour voir qu'ils continuent ce qu'ils ont appris pendant qu'ils étaient emprisonnés. Donc l'un des aspects centraux de la formation des villages est la continuité de la discipline de travail et de la surveillance par les autorités, qui permettrait le bon fonctionnement et la progression de l'aspect réformateur des colonies pénitentiaires. Tel est l'objectif de ce projet, tester un programme de réforme, de travail, et afin de pouvoir construire la présence coloniale et des économies insulaires. Il s'agissait donc d'utiliser les condamnés et leur travail pour expérimenter cette politique de colonialisme. Donc les documents montrent le plan que plusieurs fonctionnaires ont conçu pour créer cette société sur les îles. D'abord avec un ensayo. L'essai serait fait avec ce qu'ils considèrent, ces documents, ils parlent de « individuos sobrantes », donc individus excédentaires, c'est le vocabulaire qu'ils utilisent, de la communauté philippine, qui ne sont pas considérés comme productifs ou utiles pour le pénitencier. Donc c'est des prisonniers qui sont dans le nord et qui, même pour des prisons, ne sont pas utiles. Donc ils sont envoyés dans le sud. La dénomination d'individu excédentaire est importante ici. Il nous en dit long sur la manière dont les fonctionnaires de la structure coloniale concevaient la présence des condamnés indigènes dans les colonies et comment ils les traitaient comme des corps jetables, excédentaires. Donc la formulation même, n'est-ce pas, révèle un rejet systématique des corps qui ne pouvait pas entrer dans la logique de la productivité. Donc on revient à cette idée d'utilitarisme. Dire individu excédentaire rappelle également l'idée d'Achille Mbembe sur l'instrumentalisation de l'existence humaine et la destruction matérielle des corps humains et des populations. Mbembe affirme que la société, et particulièrement la société coloniale, divise l'humanité entre citoyens utiles et inutiles, donc c'est-à-dire superflus, et que l'utilité est ce qui est mesuré lorsque l'on parle de la capacité d'une force de travail, évidemment. Les humains, tels que les sociétés industrielles les conçoivent, doivent être utiles. Cependant, l'idée d'individu excédentaire est une fiction, au sens où Mbembe l'a décrit lorsqu'il explique comment la production de récits par les imaginaires occidentaux justifie l'exploitation des personnes. Elle correspond à ce qu'il appelle la notion fictionnalisée d'ennemi. Donc là, on revient à une idée, l'idée aussi de l'ennemi dont je parlais avant. La clé de compréhension de cette notion est la redistribution spatiale des populations. Et c'est Mbembe qui l'explique, j'ai une citation. Quant à la colonisation, elle a prospéré en excrétant ceux qui étaient, à plusieurs égards, jugés superflus, en surnombre au sein des nations colonisatrices. C'est le cas des pauvres, considérés comme des parasites dans la société, des vagabonds et des délinquants, considérés comme nuisibles à la nation. La colonisation a été la technique de régulation des mouvements migratoires. Donc là, on revient encore au plan avec lequel j'ai ouvert cette conférence. En effet, la philosophe espagnole Adela Cortina, qui a écrit un livre qui s'intitule « Aporofobia, el rechazo al pobre », analyse le rejet des pauvres en raison des valeurs utilitaires qui constituent l'épine dorsale de notre société. Les pauvres ne peuvent pas rendre, ne nous, peuvent pas nous donner, ne font pas partie du contrat politique socio-économique, dit-elle. Ce qui crée un monde de phobie construit sur la croyance qu'il y a des relations asymétriques. Cela donne une légitimité au rejet de l'autre différent, de celui qui est différent. Donc elle a inventé ce concept d'aporophobie pour l'expliquer. Maintenant, c'est dans le dictionnaire de la Real Academia. C'est ce que je rencontre dans les archives sous le nom d'individu excédentaire. C'est ce rejet. Les individus dits excédentaires étaient donc les prisonniers philippins, dont les corps étaient utilisés pour établir cet essai. Mais les Espagnols, les prisonniers espagnols étaient également considérés comme des individus excédentaires, car leur présence ne correspondait pas exactement à la notion de productivité idéalisée dans la péninsule du XIXe siècle, dans l'Europe du XIXe siècle, qui est une Europe industrielle. Tout le monde doit être utile. Donc ils étaient considérés comme excédentaires, au sens même où Cortina le théorise, et devaient être déplacés, utilisés, pour expérimenter une politique de colonisation qui permettrait de peupler et de construire des villages coloniaux. Ils étaient instrumentalisés pour entrer dans la logique du colonialisme et donc le laboratoire biopolitique sert cet objectif. L'idée était de modifier les habitudes, d'imposer une discipline spécifique. Les condamnés purgeraient leur peine en suivant ce système et ne seraient pas abandonnés par la suite. Le manuscrit dit qu'il ne faut pas les abandonner, même pas après leur liberté. Au contraire, la liberté pour eux signifiait qu'eux et leur famille étaient soumis à la sécurité, à la surveillance et à des lois spéciales. Pour former une société, non, le manuscrit dit « on va former une société selon des critères établis de discipline, d'ordre et de travail ». Dans ce nouveau système, les prisonniers ne seraient pas seulement réformés, mais utiles. Et l'utilité est vue comme le critère le plus important dans l'évaluation de leur personne. Le résultat serait un peuple avec « la inteligencia y el trabajo y formarán una sociedad ». Donc un peuple intelligent et travailleur, et ils formeront une société. Cette nouvelle société, dont parlent les documents, est soi-disant une société future dans laquelle les prisonniers espagnols rachetés seraient devenus des agents colonisateurs et auraient déplacé en nombre la population indigène, instituant de fait un colonialisme de peuplement. Nancy Shoemaker explique le colonialisme de peuplement comme le processus par lequel un grand nombre de colons revendiquent des terres et deviennent la majorité. En employant une logique d'élimination, comme l'a expliqué Patrick Wolfe, ils tentent de faire disparaître les habitants d'origine partout, sauf dans la nostalgie. Dans un colonialisme de peuplement, tel que nous le voyons ici, dans l'exemple que j'analyse, les colonisateurs mènent une expérience, donc un essai, qui transforme les colonies pénales en villages coloniaux pour travailler la terre, déplacer la population indigène et établir une majorité espagnole sur les îles. Le plan de colonisation pénale présenté dans ces manuscrits considère que la protection des valeurs familiales est fondamentale et offre des incitations pour que les prisonniers espagnols convainquent leurs familles d'entreprendre le voyage avec eux dans les îles. C'est d'ailleurs des lois qui étaient votées pour qu'ils puissent le faire. Il y a eu certaines lois. Le gouvernement suivant la recommandation de l'article 4 du bulletin de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, devait également favoriser l'envoi de prisonniers masculins célibataires. Et suivait en outre la suggestion de ces enquêtes dont je vous ai parlé, de faire en sorte que des femmes célibataires, le plus souvent des prostituées, et des prisonniers masculins célibataires se marient. Donc la présence des femmes était cruciale pour le succès de la stratégie coloniale, car elle garantissait la croissance des familles et le renforcement du contrôle espagnol sur le territoire. Les condamnés devaient se marier et avoir des enfants. Donc quand des condamnés se mariaient en prison, ils avaient une réduction de peine. Et avoir des enfants qui, nés et élevés sur les îles, s'installeraient fermement dans la colonie espagnole. Telle est la véritable définition de la colonisation pénitentiaire, à travers le développement d'une biopolitique dont l'objectif est d'établir des arbres généalogiques pour dominer les îles des colonies. Donc les manuscrits présentent ce programme d'expansion des familles sur le territoire les peuples coloniaux ne peuvent exister qu'avec cette expansion correctement gérée par le gouvernement. Il dit « Siendo el objeto de estas colonias la formación de pueblos, a todo penado que se destine a ella se le permitirá llevar a su familia. Todo penado soltero se le permitirá casarse por los medios legales, procurando que lo hagan con las hijas huérfanas de otros penados. Los huérfanos de padre y madre se colocarán en las casas de los colonos casados sin hijos. » Donc là, ça nous dit que tout prisonnier qui est célibataire, on lui donnera l'opportunité de se marier par les moyens légaux. Et surtout qu'il le fasse avec des filles orphelines d'autres prisonniers. Donc là, c'est un petit détail au niveau de la redistribution de ces corps féminins. Donc l'utilité, la productivité, les valeurs familiales sont des idées qui reviennent assez souvent dans les documents que j'étudie. Le vocabulaire du capitalisme et de la préservation nationale imprègne tous les domaines d'action pour le maintien et l'expansion de l'Empire. Les prisonniers, les familles, les terres cultivées doivent être étroitement gérées. Les prisonniers n'ont pas le choix des terres qu'ils peuvent exploiter à la sortie de prison. Donc ils sortent de prison, mais on leur donne les terres. Ils ne peuvent pas choisir où ils vont vivre. En contrôlant étroitement ce que les prisonniers peuvent faire une fois libérés, le gouvernement de la métropole peut s'assurer que le séjour des prisonniers en prison et leur activité professionnelle par la suite seront tous deux conçus comme des périodes de formation servant la colonie, à former la colonie, former des pueblos, des peuples, des villages. Les colonies seraient la première étape vers la construction de ces villages semi-autonomes, dans le sens où les personnes vivant et travaillant dans ces villages seraient libérées de prison, mais resteraient sous la surveillance coloniale. Le colonialisme et la réforme pénitentiaire étaient deux entreprises qui collaboraient à la création d'une continuité entre les sujets incarcérés et les sujets coloniaux, et entre la prison et le village. En outre, le manuscrit dit « Será útil gobernar esos pueblos por leyes especiales durante un plazo de 50 o 60 años. » Il sera utile de gouverner ces villages, ces peuples, avec des lois spéciales pendant 50 ou 60 ans, c'est-à-dire deux générations, ce qui correspond exactement à quatre grands-parents et à la définition exacte de la pureté raciale utilisée par l'Inquisition espagnole. Ceci est répété plusieurs fois dans les archives. Le plan révèle donc un biopouvoir incontestable, je crois vous avoir convaincu, j'espère, du contrôle des naissances, de la croissance des enfants et des décès, à l'organisation de la vie familiale, au rôle sexué des citoyens, un rôle reproductif privé pour les femmes, et à la domination des populations indigènes. Christian de Vito, celui qui nous a offert la carte au tout début, a montré qu'il existe une longue tradition d'utilisation des connaissances médicales à des fins de condamnation, comme à la fin du XVIIIe siècle pour les déportés envoyés de Cadiz aux Philippines et à Porto Rico. Il dit « La sélection de prisonniers capables de supporter des travaux forcés signifiait qu'il fallait prêter attention à leur âge et à leurs conditions physiques, et impliquait l'intervention de médecins et de connaissances médicales. L'analyse du vocabulaire utilisé dans ces phrases montre que la stature et les compétences sont des principaux critères de sélection de déportés. Les archives de la colonia de San Ramón en Zamboanga en témoignent. À cet égard, la mauvaise communication entre l'Espagne et les Philippines est évidente. Alors que l'Espagne rêvait de faire revivre son empire, comme je vous l'expliquais, en utilisant le travail des prisonniers, la réalité était que les prisonniers envoyés dans les colonies pénitentiaires n'étaient pas les corps capables attendus par les fonctionnaires espagnols. Cet aspect des archives me permet de discuter le vocabulaire du handicap dans un contexte colonial. Vous avez sur l'écran un expediente, un fichier qui s'appelle Expediente sobre regreso de penados inútiles de la colonia de San Ramón y envío de útiles y robustos, non ? Donc, c'est sur les prisonniers inutiles de la colonie et l'envoi de prisonniers utiles et robustes. Les documents dans ce dossier, enfin dans cette boîte, c'est une grosse boîte, sont des dossiers médicaux, des rapports agricoles et des lettres du directeur de la prison, offrant des listes de noms avec des descriptions physiques, comme là on le voit, non, telles que cojo, donc boiteux, manco, donc qui n'a pas de main, manchot, entre autres, décrits comme inutiles pour les travaux des champs et pour leurs défauts physiques. C'est dans l'intitulé. Je dialogue ici avec le concept de colonie éclopée de Sonny Colanès Bolton, qui a soutenu que le corps colonial est prédisposé à la déficience et que la cognition est un phénomène historique et social que nous produisons et continuons à en produire. Dans la colonie, cela implique une logique de réhabilitation, également utilisée dans le discours carcéral, et des perceptions de la capacité. Une analyse approfondie de ce vocabulaire montre les valeurs monétaires et extractivistes attribuées aux prisonniers autochtones. Dans un contexte colonial, les colonisateurs devaient remplir leurs fonctions colonisatrices au niveau requis par la puissance coloniale. Leur capacité était au cœur du projet. Les colonisés, quant à eux, étaient toujours considérés comme handicapés, soit sur le plan cognitif, soit sur le plan de la reproduction, soit sur le plan physique. Ils étaient considérés comme sensibles à la contagion ou à l'infection. Donc c'est un vocabulaire qu'on retrouve tout au long de la colonie, enfin de la colonisation espagnole dans le monde, en fait. Au XIXe siècle, la construction du handicap cognitif des Philippins a été encore intensifiée par la prise en compte de leur soi-disant primitivité. En effet, Christopher Schmidt Novara a démontré l'importance du regard espagnol sur l'autre colonial pour comprendre la construction raciale des Philippins. La représentation de personnes vivantes amenées à Madrid pour l'exposition de 1887, une exposition, ils ont transporté des Philippins vivants pour qu'ils soient observés par les Espagnols. Schmidt Novara parle d'une mise en scène du primitif et une dramatisation des habitants sur l'archipel en tenue d'indigènes dans des habitations et des habitats reproduits pour l'événement, exposés comme des animaux en cage. C'est ce que Rosemary Gladden Thompson a appelé l'encodage culturel des corps. Elle a un livre merveilleux, plusieurs livres merveilleux, mais il y en a un, c'était Freak Show, donc elle parle de comment on porte un regard sur les personnes handicapées ou sur les autres. Elle a travaillé sur tout le handicap, mais bon, qui est vraiment celui du spectacle. Donc elle parle d'encodage culturel des corps, lorsqu'elle explique comment le handicap est construit à travers des récits sociaux qui construisent les différences corporelles. Pour elle, les discours sur le handicap, la race, le genre et la sexualité s'entremêlent pour créer des figures d'altérité à partir de la matière première que sont les variations corporelles. C'est exactement ce qui est en jeu dans la représentation des prisonniers autochtones, dans les archives avec lesquelles je travaille, où le juridique, le médical et le culturel produisent l'autre physiquement et cognitivement handicapé. En effet, nous voyons comment ces corps deviennent les dépositaires des angoisses sociales. Vraiment, dans tous les documents, il y a une sorte d'angoisse coloniale. Dans les études canoniques sur le handicap, telles que Garland Thompson, Leonard Davis, Alison Kafer, Benjamin Fraser, entre autres, le passage du médical au politique vise à démanteler les relations de pouvoir dans les configurations corporelles normatives tout au long de l'histoire. Dans les manuscrits que j'ai analysés aujourd'hui, les indigènes font l'objet d'une discussion approfondie en tant que groupe à civiliser par les Espagnols. L'accent est mis sur le manque d'éducation et de savoir-vivre. Donc, le manuscrit dit « El indio filipino nace de una raza debilitada físicamente, de inteligencia empobrecida y de moral deprobada. Sus padres, sin cuidarse de inculcarles las ideas de virtud ni amor al trabajo. Sus maestros indios también, lo más que saben enseñarles es a leer palabras y a juntar letras. No leen libros de ninguna clase, ni meditan sobre ningún asunto. Adquieren un modo de sentir diferente de las demás razas. Ce supposé handicap multiple du colonisé est instrumentalisé par la puissance coloniale, notamment pour justifier la suppression ou l'élimination des corps décolonisés. De plus, il met un vocabulaire évolutif au service du colonialisme pour priver les colonisés de toute citoyenneté possible et plus généralement d'humanité. Comme l'a souligné Patrick Wolfe, l'utilité du handicap est particulièrement évidente dans les projets coloniaux qui reposent sur l'élimination des sociétés indigènes. Dans la citation que je viens de lire, dont la traduction est sur l'écran, les indigènes sont présentés comme étrangers aux valeurs modernes et capitalistes telles que le travail. Et leurs dirigeants ou enseignants sont considérés comme incapables de donner des instructions, et donc implicitement de former les nouvelles générations de citoyens, n'est-ce pas ? Ce qui justifie la nécessité d'importer la soi-disant civilisation européenne par la colonisation. En outre, et ce qui m'intéresse également, c'est que le texte parle de la méditation, qui implique la possibilité d'aborder la vie d'un point de vue existentiel et philosophique. C'était, depuis l'Antiquité grecque et chrétienne, un exercice spirituel, l'ascèse. Dans le manuscrit, il s'agit d'un marqueur occidental qui établit une barrière supplémentaire entre le colonisateur et le colonisé. La population indigène était considérée comme un peuple non seulement ignorant et non civilisé, mais qui ne ressentait pas le besoin de méditer sur quelque aspect de sa vie que ce soit. Donc les marqueurs occidentaux de la défense de la culture espagnole, comme celui-ci, sont présents tout au long du texte. L'un d'entre eux est la liberté aussi. Ça apparaît. On dit que les indigènes ne s'échapperaient jamais d'une prison parce qu'ils n'aiment pas la liberté. Donc, ils parlent d'une prison avec des murs, hein, c'est différent de l'île. Donc en effaçant la capacité des indigènes à ressentir et à apprécier des valeurs telles que la liberté, qui est un signe de civilisation dans la pensée et la philosophie occidentale, le directeur de la prison, qui est l'auteur de cette partie du manuscrit, les exclut automatiquement d'un aspect essentiel de l'humanité, la contemplation de la vie. Pour mes remarques finales, je voudrais conclure en soulignant l'ampleur des recherches qui attendent les chercheurs. Je peux en faire une partie, mais pas tout. Il y a énormément de choses à faire sur ces archives. Ma chère collègue archiviste, Jackie Amores Delgado, qui est aux archives nationales des Philippines, m'a fait part des récents documents de l'exposition. C'était il y a 3 jours, vraiment. Espacio Imperio, Mindanao and the Restructuring of Colonial Spaces for Empire. Organisée aux archives nationales des Philippines. Une exposition itinérante. Les panneaux présentent des documents d'archives et nous apprennent que Mindanao est l'endroit où l'on trouve le moins d'études et le moins de recherches. Il y a le moins de recherches. Ils expliquent que cela peut être dû au manque d'accessibilité des archives et aux insurrections qui ont également touché la région. L'exposition présente des documents coloniaux dans un contexte international. C'est je ne sais pas si on voit bien, mais la troisième photo, avec des panneaux sur le Laos, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie et la Birmanie, c'est-à-dire des colonies françaises, néerlandaises et britanniques. Donc le projet colonial espagnol à Mindanao doit être mis en dialogue avec la manière dont d'autres empires ont créé des infrastructures, les infrastructures de leur empire, dans d'autres parties de l'Asie du Sud-Est. Voilà en résumé le grand travail qui nous attend. Et je vous remercie. Oui, alors effectivement, c'est très important parce qu'ils n'envoyaient pas n'importe quel prisonnier. L'idée étant d'avoir une continuité, que ce soit des gens qui puissent être réformés pendant plusieurs années, il fallait que la condamnation soit de 10 ans au moins, minimum 10 ans déjà. Ensuite, ce qui était pris en compte, alors pour être condamné à plus de 10 ans de prison, il fallait avoir fait quelque chose d'assez important. Voilà, donc c'était vraiment un des critères. C'était des crimes importants. Et ensuite, comme je l'ai dit, j'ai parlé de l'importance du corps et de la fertilité. Il y avait dans les lois une mention à la fertilité. Il fallait que les hommes et les femmes puissent faire des enfants. Donc pour les femmes, il fallait qu'elles aient en dessous d'un certain âge, évidemment, hein, c'était difficile à savoir, mais bon, il disait, on va envoyer des femmes qui ont la possibilité d'avoir des enfants et des hommes qui soient aussi en bonne santé. Donc ça, c'est la loi, ça, c'est la théorie. Dans la pratique, évidemment, ce qu'on voit dans les documents, comme je vous ai montré sur un des documents, c'est que les prisonniers, vraiment, n'étaient pas en condition de travailler la terre du tout. Souvent, ils étaient vieux, il y a des documents qui disent « Este está viejo ». Ouais, trop vieux, demasiado viejo. Je crois que ça le dit sur la fiche que je vous ai mise. Donc, il y a la théorie, hein, les lois votées en Espagne, parce qu'évidemment, les lois étaient votées en Espagne, et la pratique sur les îles.
Il n'y a aucun projet de métissage, parce que tu as dit très clairement qu'il s'agissait de les marier entre eux, mais il n'y a pas eu un projet de colonisation des corps, justement, par le métissage du tout.
Alors, ça, c'est une question à laquelle j'ai pas. Enfin, si j'ai une réponse, mais ce n'est pas vraiment clair parce que ce que j'ai vu, c'est que qu'il y avait un peu. L'approche à la colonie pénitentiaire aux Philippines était une approche qui ne voulait pas reproduire ce qui s'était passé en Amérique latine. Okay. D'accord ? Parce que ce qui s'est passé en Amérique latine, c'est qu'il y a eu un métissage et après il y a eu des criollos et les criollos ont demandé l'indépendance. Donc il y a cette angoisse que ça se reproduise sur les dernières colonies. Donc surtout, c'est pour ça qu'ils voulaient envoyer des hommes et des femmes espagnols pour qu'il y ait une domination espagnole plus qu'un métissage. Après, des fois, ils en parlent. Ils parlent d'un certain métissage. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un certain recul. Enfin, je ne veux pas être catégorique parce que il y a quand même certains documents qui parlent de comment améliorer l'Indien philippin avec le mariage avec des Espagnols pour pouvoir leur inculquer les valeurs espagnoles, etc. Mais en Espagne, les documents que j'ai consultés du ministère d'Outre-mer vraiment parlent de cette nécessité que les Espagnols se marient entre eux et aient des enfants espagnols. Voilà. Donc et je pense que c'est vraiment dû à cette angoisse des colonies qui étaient en train d'être perdues, entre guillemets, en Amérique latine.
Donc, c'est marrant parce qu'à peu près au même moment en Amérique latine, les nouveaux États indépendants cherchent à métisser leurs Indiens, justement, à apporter des Européens pour métisser leurs Indiens et relever la race.
Oui, effectivement. Et puis, si on parle des colonies pénitentiaires, les pays d'Amérique latine en avaient. Enfin, le Chili est particulièrement connu pour ses colonies pénitentiaires. Ils ont fait exactement la même chose. Enfin, je veux dire, c'est un débat, une pratique qui était courante dans le monde entier. La Russie a des colonies pénitentiaires à cette époque. Enfin, voilà. On connaît surtout l'Australie parce que c'est censé être réussi. C'est vrai, ils ont réussi à peupler l'Australie. Mais y en a eu un peu partout.
J'avais une question sur les sources. Tu as parlé de sources alternatives, en particulier des archives de compteurs. Et donc, je me demandais si tu pouvais nous en dire un petit peu plus de ces sources, alors les compteurs, et puis aussi, est-ce qu'il existe des témoignages, des mémoires, alors ça peut être de prisonniers ou de gardiens de prisonniers, enfin voilà.
Oui, alors les sources de compteurs, j'en faisais référence parce que c'est Boagas Mojares qui travaille là-dessus, sur la Zamboanga, la prison. Et effectivement, il a fait beaucoup de recherches sur des archives du 19e siècle, des gens qui ont écrit. Moi, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais c'est son approche. Mais par contre, moi, oui, j'ai des sortes de récits dans mes archives qui peuvent être considérés comme des récits de conteurs. Par exemple, il y a des prisonniers qui s'échappent et qui après sont récupérés et ramenés parce que, alors, Mindanao était habité, c'est un croisement, le sud des Philippines, il y a des croisements, il y a des sultanats, donc il y a énormément de musulmans, et il y a aussi des Chinois, parce qu'il y avait beaucoup de marchands chinois qui passaient par là, et donc les Espagnols ont des relations avec les marchands chinois et des relations avec les sultans. Et les sultans, notamment, enfin, tous les sultanats, aidaient à récupérer les prisonniers qui partaient ou qui ne revenaient pas parce qu'il n'y avait pas vraiment de mur, ils travaillaient les champs, donc ils étaient autour de l'île, donc des fois ils les ramenaient en échange d'argent. Et après, les archives montrent les récits de ces prisonniers, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait, de pourquoi ils ne revenaient pas. Donc c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et c'est pour ça que c'est quand même. Ce sont des documents très riches et qui pourraient donner lieu à des recherches spécifiques là-dessus qui permettraient de connaître, par exemple, le sol, enfin, des gens qui travaillent sur l'environnement et les questions environnementales au 19e siècle. Bon, moi, je ne travaille pas trop ça dans mon livre, hein, j'en parle un petit peu, mais ces récits sont vraiment. Pourraient être importants. Donc je les ai lus.
C'est la voix des prisonniers et pas seulement la voix officielle des directeurs de prison.
Oui, alors la voix des prisonniers, elle nous est rendue par les copistes.
D'accord.
Hein, donc c'est un aspect aussi très intéressant et très important que je... Il faut que j'y pense. Bon, il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus, mais il faut que je m'y mette un peu plus sérieusement parce que... Mais c'est vrai, c'est quand la fiche des choses à faire, c'est dans ma fiche des choses à faire, pour pouvoir comprendre ces voies-là, si c'est des voies de la résistance, par exemple. Il y a quelqu'un qui m'a proposé pour un colloque en mai de travailler là-dessus. Donc, est-ce que j'ai des voies de la résistance dans mes archives? Est-ce que ces transcriptions de prisonniers, ça l'est? Il y a des prisonniers qui demandent, par exemple, à établir leur résidence quelque part quand ils seront libérés. Après, c'est accepté, pas accepté. Donc, pourquoi ils le font? Bon, moi, dans mon analyse, je vois que le fait qu'on leur donne une résidence, on leur dise « vous allez être là, vous allez travailler ces champs », il y a un contrôle après la prison. Donc peut-être c'est qu'ils veulent échapper à ce contrôle. Donc il y a un travail à faire là-dessus sur le langage dans ces textes. Je ne l'ai pas encore abordé sérieusement, mais c'est dans ma liste. Oui, oui, il y a beaucoup de choses à faire.
Merci. Peut-être avoir une autre question alors oui. Que tu nous as lancé sur l'enjeu des langues.
Ah oui. Oui, alors, il faut savoir que, par exemple, l'Espagne a imposé le castillan en Amérique. C'est une chose qu'elle n'a pas faite aux Philippines. Bon, il y a une grosse différence. Les Philippines, ils n'ont jamais réussi à établir un poste militaire, hein, d'une. Donc, par rapport aux colonies américaines, c'est une grosse différence. Le clergé était allé aux Philippines. Et le clergé a appris les langues autochtones. Mais ils n'ont pas réussi l'enseignement de l'espagnol. Donc, je crois, si je ne me trompe pas, au 19e siècle, il n'y avait que 4% de la population qui parlait espagnol. Donc, il y avait énormément de langues, ce qui empêchait une bonne communication, une bonne gouvernance. Effectivement, donc, ça, c'était vraiment... pour une bonne colonisation d'un espace, il faut passer par la langue. Ensuite, moi, dans les archives que je travaille, moi, pratiquement tout est en castillan, mais de temps en temps, je rencontre un texte en aljamiade, donc c'est l'alphabet arabe utilisé pour normalement écrire l'espagnol, mais dans ce cas-là, c'est pour écrire des langues comme le tagalog. Donc j'ai demandé, je ne lis pas ça, mais je l'ai montré à quelques collègues, ils m'ont dit effectivement, ce n'est pas de l'espagnol, ça doit être une langue locale. Quelques textes en tagalog. À chaque fois, ces textes sont accompagnés d'une traduction de l'époque. Donc voilà, c'est intéressant, c'est joli. Il y a aussi des signatures en chinois. J'ai pas trouvé de texte en chinois, mais bon, les marchands, quand ils signent en chinois et après, leur nom est traduit en dessous. Donc, voilà. Parce qu'après, le texte parle de leur nom, enfin, le contrat ou la vente, enfin. Donc, voilà. Ouais. C'est intéressant ce contact des langues et des cultures. Oui.
Tu disais justement que ces colonies pénales aux Philippines, c'était Mensal, vraiment un essai. Tu disais que ça pouvait potentiellement, cet essai, servir pour après les colonies pénales, je ne sais pas, en Espagne, quelque chose comme ça. Ils avaient déjà prévu quelque chose en Espagne?
Alors en Espagne, il y avait des colonies intérieures. Il y a la colonie pénale, les colonies pénales en Afrique aussi. Enfin, l'Espagne avait le projet d'avoir des colonies pénales un peu partout. Mais surtout, l'idée, c'était de faire revivre l'Empire. Donc ce qu'ils voulaient, c'est vraiment tester une méthode agricole. Comme personne ne voulait y aller pour le faire, ils se sont dit, on a besoin de bras, qui on va envoyer? On va faire ça et on va voir si ça marche. Et si ça marche, c'est vraiment notre porte de secours à cette crise espagnole du 19e siècle. Et on va pouvoir établir notre présence un peu partout. Donc c'était ça l'idée. Cet essai allait être vraiment le centre... Le noyau
de l'Empire. Donc, en gros, c'est planté en Amérique, on a été nul. Ouais. On va tester un nouveau modèle aux Philippines et à partir de là, on se remet à conquérir.
C'est ça.
C'est génial.
Ouais, c'est super. Ouais, ouais. Moi, quand j'ai vu ce mot, quand j'ai vu Ensayo, j'ai dit ah ben voilà, c'est bon, ça y est, j'ai le fil conducteur. Quoi. C'est le vocabulaire. Le vocabulaire est passionnant. Enfin, moi, je trouve que dans ces documents, je le dis à mes étudiants parce que les étudiants préfèrent des textes peut-être un peu plus. C'est vrai que les documents administratifs, avant de trouver quelque chose, il faut en lire beaucoup. Et puis ça peut être un peu embêtant. Alors bon, 15 pioches, je ne sais pas combien de trucs. Mais en fait, si on le lit bien, il y a parfois un mot, et alors là, le bonheur est absolu. Quand on a passé je ne sais pas combien de jours à avoir des documents, et d'un coup, on trouve le document avec un mot qui nous aide. Ben, c'est... Oui ? Ah ben oui, c'est une bonne question. Alors, il y avait des prisons comme les prisons qu'il y avait en Espagne pour mettre les gens en prison. Et c'était des prisons avec des murs. Il y en avait à Manille. Et d'ailleurs, il y a cette prison Bilibid qui est encore de nos jours... Enfin, il en reste, on va dire, un tiers. C'est une prison panoptique. Donc, ils ont suivi le modèle de Bentham pour construire cette prison qui est aussi un modèle qui a été très suivi en Europe. Il y a des prisons panoptiques un peu partout. Enfin, dans le monde, en fait. Et donc, il y avait des prisons, on va dire, traditionnelles. Et la prison Bilibid, je vais vous raconter mon anecdote, c'était en juin, des amis là-bas m'ont dit, bon, on va aller, voir la prison avec toi. Donc, ils ont imprimé sur Google les visions aériennes de la prison. Et puis, on y est allé et il fallait rentrer dans un métro, dans une station de métro pour voir la prison. Donc on a payé un ticket, on est rentré dans la station et on était sur une sorte de passerelle, mais on n'allait pas prendre le métro. Et on a commencé à voir la prison, donc on a mis nos feuilles imprimées. Et la prison, elle est, c'est dommage, j'ai pas de photos, mais elle est complètement au milieu de la ville, c'est-à-dire la ville a mangé la prison. Donc on voit le centre d'une prison panoptique et quelques bras, il y en a qui ont été détruits, et puis après les maisons. Et les bâtiments, enfin, c'est vraiment dans le centre. Et donc, on peut voir les prisonniers, en fait. Et nous, on prenait des photos, on essayait de zoomer et tout et tout. Et là, la police arrive. Parce que, ils nous ont vus, enfin, je veux dire, les employés du métro nous ont vus dans avec leurs vidéos, enfin, avec les caméras de surveillance. Et ils ont dit, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des photos de la prison. Donc, alors, ils ont appelé la police. Donc, la police est arrivée. Et ils demandent, alors moi je comprenais rien parce qu'ils parlaient très très vite, ils parlaient tagalog, enfin moi je. Et alors les autres c'était ah bah oui, non mais bon. Et donc il y a un ami qui a dit, mais non, mais en fait nous sommes des archives nationales des Philippines, donc effectivement ils travaillent là-bas. Et voilà Docteur Violette. Docteur Violette travaille sur les prisons et on est venu lui montrer la prison panoptique parce qu'elle vient des États-Unis, elle vient de New York. Et donc. Docteur Violette de New York, d'accord, allez-y, allez. Donc, c'était très très drôle parce qu'ils étaient fâchés au début et ils allaient nous virer quoi, et puis après on avait le droit de prendre toutes les photos parce que, pour les amis à New York, voilà. C'était très drôle, apparemment c'est ce qui a sauvé, voilà, bon, c'est une petite anecdote, mais ah, merci. Oui,
j'avais une question concernant vos archives. Oui. Comment elles sont réparties?
Alors, très bonne question. Les archives que j'ai consultées aux Philippines ne sont pas du tout disponibles sur Internet. Ils ont une protection totale de leurs documents. De plus, quand on y va, on ne peut pas voir les documents. On doit les voir sur l'ordinateur, digitalisés. Alors que c'est des documents du 19e qui ne sont pas... Je veux dire, je comprends si c'est un manuscrit du 13e, 14e siècle... Mais en fait, ces documents-là, par exemple, en Espagne, les documents du ministère d'Outre-mer aux archives historiques à Madrid, on peut les voir. Donc ceux-là, oui. Et il y en a quelques-uns digitalisés. Je me demande d'ailleurs si le manuscrit dont j'ai parlé, il n'est pas disponible sur Pares. Pares, c'est la base de données. On peut voir tout ce qu'il y a aux archives historiques à Madrid. Et ils ont des choses digitalisées. Donc oui, il y en a. Mais... aux Philippines, non. Ils ont vraiment cette protection des documents. Et d'ailleurs, ça a été un peu problématique parce que quand ce n'est pas digitalisé, on ne peut pas le voir, même si on sait que c'est dans les archives. Donc, il faut qu'ils le digitalisent. Et après, on peut le voir. Et par contre, on peut leur demander des reproductions sur USB et tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut se déplacer. Et c'est pour ça que ça a complètement changé ma recherche parce que j'avais eu aucune possibilité de voir ces documents. Je devais y aller, il y a eu le Covid, donc j'ai dû attendre 3 ans pour y aller, presque. Et enfin, quand je les ai vus, et ben, ça a changé un peu le regard que j'ai eu sur... Enfin, mon analyse complète, ça a changé le livre complètement.
Comment
Donc il faut se déplacer, voilà. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que je dis aussi aux étudiants, c'est qu'on a l'impression que maintenant, avec la digitalisation et l'accessibilité sur Internet, qui est merveilleuse, hein, moi j'adore, enfin, c'est une façon de faire la recherche qui est absolument géniale, ça nous permet d'avancer, mais il y a quand même une découverte qui est vraiment unique à enfin, chaque endroit. Et puis pour moi, il était clair qu'en travaillant ce territoire, il fallait que j'aille voir ce qu'il y a dans les archives. Effectivement, on ne peut pas travailler de loin. Puis c'est rigolo. Ouais. Mais en plus, la salle là-bas, il n'y a pas Internet. C'est vraiment, ils ont une protection totale. Ils nous donnent des ordinateurs sans Internet. Donc on ne peut pas vérifier les données. Non, c'est vraiment que le travail avec les documents. Et il n'y a que 6 tables. Donc que 6 chercheurs.
Bonheur.
C'est merveilleux. Il y a plus de personnes qui travaillent que de gens qui font la recherche. Ouais. Et ils ferment à 16h, comme ça on n'y reste pas jusqu'à 20h. C'est parfait.
Non, c'est parfait parce que quand tu bosses, tu n'as pas internet, donc tu travailles et à 16h.
À 16h, voilà, tu vas te promener. Oui, c'est très très bien. Allez-y.
Merci
à vous. Merci.